Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Génération Écologie. Nous sommes le 28 mai 2025 et on se retrouve pour décrypter l'offensive obscurantiste qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale lors de l'examen, il y a quelques jours, de la loi du plomb qui prévoit notamment le retour du poison des néonicotinoïdes. Une réunion d'échange et de mobilisation avec Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres et coordinatrice nationale de Génération Écologie.
Bonsoir à toutes et tous. Donc, comme vous l'avez compris, il s'est passé lundi à l'Assemblée nationale un événement qui est inédit dans l'histoire de la Ve République, avec l'adoption, donc par ceux qui sont pour une loi, de la motion de rejet sur leur propre texte, avec pour objectif donc d'empêcher un débat démocratique à l'Assemblée nationale sur une loi dont je vais expliquer le contenu, puisqu'il est très grave. Et peut-être la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas un hasard que ce coup de force s'opère sur un texte qui a des implications extrêmement lourdes en matière de santé publique, en matière de biodiversité, en matière de modèle agricole, et qui a un lien entre le fond et la forme. Donc peut-être le premier point que je voudrais développer, c'est sur le contenu. En fait, puisque cette loi, la loi donc dite Duplomb, du nom du sénateur qui en est l'auteur, qui est notoirement climato-sceptique, voire climato-obscurantiste, qui a fait plusieurs déclarations selon lesquelles le changement climatique aurait des effets bénéfiques dans la région dont il est élu, qui a fait plusieurs déclarations expliquant que c'était excessif tout ce qui est dit sur le changement climatique, que c'était destiné à agiter les peurs, etc., etc. Donc ce texte, il prévoit notamment, je reviendrai plus tard sur d'autres aspects qui sont tout aussi préoccupants, le retour des néonicotinoïdes en France. Et c'est peut-être la première chose que je voudrais expliquer, c'est de quoi on parle quand on parle des néonicotinoïdes. Dans la longue histoire des pesticides, les néonicotinoïdes ont été inventés par les firmes de l'agrochimie parce que de précédents insecticides, soit étaient tellement dangereux pour la santé humaine qu'ils avaient été retirés de la circulation, soit, bien que dangereux, n'étaient pas retirés de la circulation, mais généraient des phénomènes de résistance des ravageurs, c'est-à-dire que le ravageur des cultures ne répondait plus, comme on dit, à l'utilisation de tel ou tel insecticide. Et donc les firmes de l'agrochimie ont inventé une nouvelle famille d'insecticides, les néonicotinoïdes, qui a des caractéristiques qu'il faut bien comprendre. La première, c'est d'être systémique, c'est-à-dire que toute la plante devient une plante insecticide dans sa totalité, tout au long de sa vie. Et dans une situation où, évidemment, 98% de la substance ne va pas dans la plante, mais va dans l'environnement, donc dans l'eau, dans l'air, dans les sols, etc., etc. La deuxième chose, c'est leur toxicité aiguë. Un des néonicotinoïdes qui a été interdit en France, qui s'appelle l'imidaclopride, il est dans les 7000 à 11000 fois plus toxique, plus puissant que le DDT qui avait été interdit il y a plus de 50 ans en France. Ils sont particulièrement persistants dans l'environnement. Pour certains d'entre eux, ça se compte en années et pour certains d'entre eux, ça se compte en décennies. C'est-à-dire que ces poisons, non seulement ne se limitent pas à la plante dans laquelle ils ont été, qui a été traitée par les néonicotinoïdes, mais on retrouve dans l'eau, dans les sols, dans l'air, longtemps après, et dans tous les organismes vivants, puisqu'ils ont une autre caractéristique, c'est d'être bioaccumulables. Donc, on retrouve des néonicotinoïdes dans les vers de terre, dans les oiseaux, dans les mammifères, etc., etc., même longtemps après leur utilisation. Et ils ont enfin une dernière caractéristique qui est très importante pour comprendre le problème, c'est qu'on met des néonicotinoïdes, même quand il n'y en a pas besoin, au travers d'une technique qui s'appelle l'enrobage de semences. Donc en fait, on plonge la graine d'une culture dans des néonicotinoïdes, et ce avant même qu'il y ait l'existence d'un ravageur. avant même d'avoir constaté en fait qu'il y aurait, je sais pas moi, des pucerons, ce que vous voulez, qui posent un problème. Et donc on a massivement en fait utilisé ces produits en France pendant des décennies, et très vite il y a eu des lanceurs d'alerte qui sont les apiculteurs, parce qu'ils voyaient leurs colonies d'abeilles mourir. Et donc on a pendant de nombreuses années en France toute une saga, peut-être ces noms vont vous dire quelque chose, le Gaucho, le Régent, le Fipronil, le Cruiser. Et donc en fait on a un combat qui est porté par les agriculteurs pour interdire ces produits, mais j'allais dire produit par produit. Et ce que nous avons réussi et qui est assez unique, et c'est un combat qu'on mène aujourd'hui sur tous les pesticides en général et d'autres familles de pesticides en particulier, comme par exemple les SDHI, dont on pourra peut-être parler après, c'est qu'en 2015, un amendement parlementaire que nous avions déposé à deux députés avec Gérard Bapt a posé le principe de l'interdiction de toute la famille des néonicotinoïdes. C'est-à-dire qu'on arrête de dire on interdit le Gaucho, puis ensuite les firmes inventent le Cruiser. On interdit le Cruiser, puis les firmes inventent un nouveau produit qui s'appelle le Cruiser OSR. On interdit l'ensemble des néonicotinoïdes en France, et ça a été voté par la loi en 2015 et 2016, avec une entrée en application en 2018 et des dérogations possibles pour certaines filières jusqu'en 2020. Voilà l'histoire donc de ce dont on parle. La France, elle a interdit les néonicotinoïdes pour de très bonnes raisons. Et il y a un lien direct, c'est pas la seule cause, mais il y a un lien direct entre les néonicotinoïdes et l'effondrement de 80% des populations d'insectes constatées en France. Ce n'est pas la seule raison, hein, j'insiste, mais c'est une des raisons, ces insecticides systémiques qui tuent tout et qui ne ciblent pas donc par exemple que le puceron, mais vont par exemple tuer aussi toutes les coccinelles et donc en fait tuent aussi les prédateurs des ravageurs des cultures quand on est dans une ce qu'on appelle la lutte intégrée contre les ravageurs des cultures, c'est-à-dire qu'on mise sur le vivant et sur l'équilibre des écosystèmes et sur la biodiversité pour pouvoir réguler les problématiques de ravageurs en agriculture. En 2018, il y a les États généraux de l'alimentation, pour ceux qui s'en souviennent, qui ont donné lieu à une loi qui s'appelle la loi Egalim. Et en fait, les firmes de l'agrochimie, une fois qu'on a interdit les néonicotinoïdes, elles ont inventé un nouveau truc qui était d'inventer des nouveaux néonicotinoïdes présentés comme des produits qui ne seraient pas des néonicotinoïdes. Je ne sais pas si vous voyez la logique un peu du Canada Dry, sauf que là, c'était vraiment des néonicotinoïdes. Donc, ils ont sorti du chapeau des nouveaux produits qui ont été autorisés dans l'Union européenne, qui s'appellent le sulfoxaflore, le flupyradifurone notamment. Et donc, on a réussi, dans la loi de 2018, à poser le principe qui était interdit en France, non seulement les néonicotinoïdes, mais aussi tous les produits ayant le même mode d'action. Et quand la loi française donc a été élargie, est entrée en vigueur, il y a eu un tweet du président de la République, Emmanuel Macron, pour dire sa fierté que la France soit le premier pays au monde à interdire les néonicotinoïdes. Et derrière ça, l'Union européenne a, elle aussi, à partir du vote de la loi française en 2016, elle a, elle aussi, en 2017, 2018, 2019, par étapes, interdit les principaux néonicotinoïdes dans toute l'Europe. Donc, c'est une bataille assez exemplaire qui a été réussie à la fois par la détermination parlementaire, mais aussi par une mobilisation de la société civile, des apiculteurs, de beaucoup de citoyens. Et c'est un exemple assez unique dans son genre. Je vous ai parlé de l'impact des néonicotinoïdes sur les insectes. Il y a aussi, évidemment, par principe, un produit chimique qui atteint toutes les espèces vivantes. Sans cibler uniquement un ravageur, il a nécessairement, potentiellement aussi, des conséquences sur la santé humaine. Et c'est seulement depuis quelques années qu'il y a un certain nombre de données et de littérature scientifique sur les conséquences pour la santé humaine, parce que les études sont beaucoup plus, vous voyez, pour avoir, comment dire, des études épidémiologiques, etc., qui puissent démontrer des choses, c'est beaucoup plus compliqué, même si, bien sûr, il y a un certain nombre d'études en laboratoire qui étaient déjà alarmantes. Et donc, on a sur le produit que le gouvernement veut réautoriser, qui s'appelle l'acétamipride, donc qui est un des néonicotinoïdes. On a une littérature scientifique qui commence à être abondante sur les effets neurotoxiques, donc avec des conséquences sur le développement du cerveau, sur le fait que ce poison, il franchit la barrière placentaire, donc ça veut dire qu'il peut atteindre les enfants dans le ventre de leur mère au moment du développement des différents organes et notamment du cerveau, donc avec une suspicion d'implication dans les troubles du neurodéveloppement. On sait aussi qu'on en trouve dans le liquide céphalorachidien d'enfants. On sait aussi qu'on trouve plus d'acétamipride dans les urines de bébés prématurés, beaucoup plus petits que les autres bébés prématurés du même âge gestationnel, etc., etc. On a aussi des études dans un certain nombre de pays, notamment au Japon, où l'acétamipride est très utilisé, sur des conséquences pour la fertilité, notamment en termes de troubles érectiles des hommes. Voilà donc la belle histoire de comment on a réussi à interdire ces produits. En 2020, le gouvernement, sous la pression de Marine Le Pen, au moment où était ministre de l'Agriculture Julien de Normandie, a pris une loi, je pense que beaucoup s'en souviennent à Génération Écologie, puisqu'on avait mené campagne contre cette loi, pour déjà, à l'époque, réautoriser les néonicotinoïdes que pour les cultures de betteraves à sucre. Donc cette loi a été votée malgré le combat que nous avions mené à l'époque, mais elle a de fait été cassée par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en 2023, où la Cour de justice de l'Union européenne a dit que les dérogations françaises et des autres pays européens pour utiliser des produits pesticides qui étaient interdits dans l'Union européenne étaient illégales. Et la Cour de justice de l'Union européenne va plus loin, puisque dans sa décision, elle dit quelque chose qui pour nous est fondamental. Les objectifs de préservation de la santé humaine et de l'environnement prévalent sur les objectifs de productivisme agricole. Donc elle dit, dans la balance entre des intérêts économiques et la santé humaine et l'environnement, ben c'est la santé humaine et l'environnement qui priment. Donc nous en étions là, sur le combat pour les néonicotinoïdes, jusqu'à la loi du plomb. Cette loi du plomb, on l'a vu venir de loin, puisque vous vous souvenez, pour celles et ceux qui étaient là, l'analyse que nous avions faite, c'était celle d'un détournement des revendications réelles des agricultrices et des agriculteurs qui portaient principalement sur le revenu, sur la lutte contre la concurrence déloyale liée aux accords de libre-échange, sur le manque de reconnaissance en fait du pays. Il y a eu une espèce de hold-up pour canaliser ce mouvement, que tout le monde rentre dans les fermes, et pour changer la nature des revendications et en faire principalement des revendications anti-écologiques. Dans le prolongement de cette situation, à l'heure où je parle, il n'y a aucune réponse qui a été apportée sérieuse aux revendications agricoles sur la question du revenu, d'avoir un revenu digne. Il y a pas de réponse sérieuse qui a été apportée à la problématique de la concurrence déloyale, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit environnementale, si ce n'est l'engagement de la France de refuser la ratification de l'accord avec le Mercosur. Il n'y a pas d'amélioration considérable de tout ce qui est les problèmes, vous savez, de bureaucratie dans le versement des aides PAC, des retards de paiement, toutes ces choses qui rendent la vie impossible. Par contre, il y a une offensive menée tambour battant pour défaire les règles environnementales. Et donc, en fait, il y a une loi qui a été adoptée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle la loi d'orientation agricole, qui n'apporte aucune réponse concrète en fait aux préoccupations principales du monde agricole, tandis que tous les débats qui ont été écartés dans cette loi d'orientation agricole sur les pesticides, sur la gestion de l'eau, sur les installations d'élevage, etc., ont été mis dans la loi du plomb, inscrite donc à l'ordre du jour du Sénat et adoptée par le Sénat. Cette loi, elle fait quoi? Elle fait le retour donc des néonicotinoïdes avec l'acétamipride. Elle est une loi dont la caractérisation est celle d'être obscurantiste. Il y a un aspect de cette loi concernant les pesticides qui est très important, qui est le fait de vouloir en fait que l'ANSES, qui est normalement le gendarme français de l'autorisation ou de l'interdiction des pesticides, sur lequel il y a des choses à dire par ailleurs, mais qui est dans une procédure cadrée par le règlement européen, on évalue les risques et en fonction de l'évaluation des risques, on décide ou pas. Alors, on pourra y revenir dans la discussion, hein. On décide ou pas d'autoriser des pesticides. Et ben là, en fait, il y aurait un comité qui décide si un usage d'un pesticide est prioritaire ou pas. Et si l'usage est prioritaire, et ben c'est ce que l'ANSES doit traiter d'abord sur ordre du ministre de l'Agriculture. Dans le comité en question, il y a les firmes de l'agrochimie. Et donc, je vous la fais courte, mais ça revient à dire que l'ANSES doit s'occuper prioritairement des besoins de telle ou telle filière économique versus s'il y a, par exemple, une alerte sanitaire sur un produit, s'il y a une alerte par rapport aux effets d'un pesticide sur la biodiversité, ben dans l'ordre dans lequel elle instruit les dossiers, elle doit donner la priorité aux intérêts économiques. Donc, c'est inédit en termes d'attaque contre la science. La même chose sur les néonicotinoïdes, puisqu'il y a un déni complet de l'effondrement, notamment des populations d'insectes, et un déni aussi des données sanitaires que j'évoquais tout à l'heure sur l'acétamipride. Et puis, il y a d'autres choses dans cette loi, donc l'augmentation de la taille des élevages industriels en allégeant toutes les règles liées, vous savez, à ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement, ce qu'on appelle les ICPE. Et il y a évidemment des articles sur l'irrigation et la gestion de l'eau qui consistent à vouloir doter la construction de bassines de la raison impérative d'intérêt public majeur, c'est-à-dire du droit de détruire des habitats d'espèces protégées. Et ce choix sur les bassines est une manière de vouloir contourner le jugement qui a été rendu concernant les bassines, notamment de Sainte-Soline et quelques autres dans les Deux-Sèvres, où il y en a 4 sur 16 dont les autorisations environnementales ont été suspendues par la justice parce qu'elles portent atteinte à des espèces protégées, et en l'occurrence à l'outarde canepetière. Dans ce même article sur l'eau, il y a l'invention d'un concept. Alors, le concept, c'est la zone humide fortement modifiée. Donc, comme vous le savez, on a déjà perdu 2/3 des zones humides en France. Les zones humides sont vitales. Voilà. Elles sont vitales pour la biodiversité. Elles sont vitales pour la recharge des nappes phréatiques. Elles sont vitales pour donc lutter contre les sécheresses et aussi pour lutter contre les inondations. Plus on détruit de zones humides, plus en fait on artificialise les sols et plus on aggrave les risques en termes de sécurité civile liés aux inondations. Et donc on est dans une situation aujourd'hui où en France, il y a seulement 6% des zones humides restantes qui sont en bon état écologique. Et ils inventent dans la loi le concept de zone humide fortement modifiée. Donc ça veut dire que potentiellement 94% des zones humides de France restantes, on considère que bon, en fait, elles sont pas parfaites, elles ont un problème, etc. Et en fait, à partir du moment où elles sont considérées comme fortement modifiées, ben, devinez quoi? On a le droit de construire dessus et de faire plein de choses sans respecter la directive européenne sur la protection de la ressource en eau et des zones humides. Donc, c'est une espèce de mécanique magique. Donc, c'est peut-être un aspect du texte qui est moins grand public, mais qui est extrêmement grave et extrêmement, extrêmement lourd de conséquences. Il y a aussi des dispositions qui concernent l'Office français de la biodiversité, qui consiste à dire que les agents de la police de l'environnement ne peuvent plus, quand ils constatent une infraction, ne pourraient plus transmettre directement leurs procès-verbaux au procureur de la République, mais devraient passer par le filtre du contre de ce qui s'appelle par la voie hiérarchique. Autrement dit, devraient adresser leurs procès-verbaux au préfet, qui aura donc toute latitude pour juger de l'opportunité de transmettre les infractions au procureur de la République ou pas. Donc voilà, si vous voulez, le tableau de cette loi qui est une loi de régression d'une portée inédite sur l'ensemble des dimensions de santé publique, de préservation de la biodiversité, de protection de l'eau et de l'eau potable. C'est ça qui a été voté par le Sénat et qui arrivait à l'Assemblée nationale. Et donc, il était parfaitement normal et légitime qu'un texte obscurantiste de cette nature, nous préparions à le combattre pied à pied, alinéa par alinéa, pour empêcher ces reculs. J'en viens maintenant à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Donc, quand le texte il arrive à l'Assemblée nationale, il doit passer par deux commissions. Il y a une première commission, c'est la commission du développement durable. Donc, en commission du développement durable, il y a une situation où d'abord, il y a beaucoup de députés de Ensemble pour la République, donc macronistes, qui ne sont pas là. Et donc, on gagne tous les votes. On supprime l'article 2, c'est celui sur l'assiette amipride. On réécrit entièrement le texte sur l'eau. Donc, on met, si vous prenez le texte adopté par la Commission du développement durable, c'est une espèce de l'an 1 d'une république écologique de transformation du modèle agricole et de la politique de l'eau. Il y a le fait que les captages d'eau potable et les pesticides sont interdits dedans. Voilà, qu'il y a un moratoire sur les bassines, qu'on lutte contre la concurrence déloyale en matière de pesticides, c'est-à-dire qu'on alourdit considérablement les règles qui permettent à la France de dire « moi, ces denrées alimentaires-là, elles ont été fabriquées dans un autre pays avec des pesticides qui sont interdits chez moi et donc ils n'entrent pas en France, ils ne sont pas commercialisés en France, je protège la santé publique, etc. » Donc, beaucoup de votes gagnés. Et on était parfaitement lucide. Moi, j'ai dit aux copains à l'issue de la commission, le match retour va être extrêmement violent. Et c'est ce qui n'a pas manqué de se passer. Et donc, la deuxième commission qui a eu à traiter le texte, c'est la commission des affaires économiques, qui est la commission principale qui en est responsable. Et là, elle a globalement avalisé le texte du Sénat en le réécrivant sur certains points pour que l'offensive soit moins ouverte. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, sur l'ANSES, il y a eu quelques amendements, ce que je vous disais, donc, sur le fait de mettre le processus, en fait, qui décide si un pesticide est autorisé ou pas en France, de le remettre dans les mains du ministre de l'Agriculture et d'un comité dans lequel il y a les Bayer, Monsanto, etc., etc. Ça, ils l'ont supprimé tout en réécrivant la possibilité qu'il y ait quand même un comité qui donnera quand même un avis sur des usages prioritaires, etc. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sournois, c'est moins ouvert comme offensive, mais avec un but qui est le même. De la même façon, sur le retour des néonicotinoïdes, ils ont fait semblant d'encadrer un peu mieux, que ce soit des dérogations très, très exceptionnelles, etc. Mais ça revient au même, c'est-à-dire que ça revient autoriser l'acétamipride en France. Mathématiquement, dans la commission des affaires économiques, ce qu'on a vu se concrétiser, c'est en termes de vote, hein, c'est un vote qui va de Ensemble pour la République, les LR, l'extrême droite, sur la logique d'approbation du texte et de l'approbation de ses dispositions. On a vu et on a constaté, c'est concrétisé l'opposition du MoDem à un certain nombre des mesures de cette loi qu'on avait déjà constaté dans la commission précédente, mais qui s'est confirmé en commission des affaires économiques et en particulier sur l'article 2 qui concerne les néonicotinoïdes et qui concerne la procédure d'autorisation des pesticides par l'ANSES. Donc une situation où ce qui s'appelle à l'Assemblée nationale le socle commun ou le bloc plus ou moins central, mais avec l'extrême droite, vous voyez que ça devient quand même un peu moins central, il y avait des voix en son sein discordantes. Ce texte devait donc commencer à l'Assemblée nationale lundi. Alors déjà, je voudrais rappeler qu'il y a une anomalie dans l'inscription de cette proposition de loi Duplomb, donc je rembobine, un sénateur obscurantiste qui fait une loi d'une portée inédite en termes d'attaque contre un certain nombre de politiques écologiques. Comment c'est possible qu'un texte comme ça, dans la situation actuelle de la France, trouve place dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale? Eh bien, pour y arriver, ils ont enlevé d'autres textes Donc, ils ont enlevé notamment de l'ordre du jour un projet de loi sur les infrastructures, la résilience des infrastructures critiques et la cybersécurité de la France, qui est un texte très attendu pour des raisons liées à la défense nationale et au contexte géopolitique dans lequel on est. Donc, ça donne une idée, si vous voulez, de la hiérarchie des priorités. Et tout ça, évidemment, sous la pression de la FNSEA qui, dès le salon de l'agriculture, exigeait du gouvernement qu'il inscrive ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc le texte, en fait, quand il arrive lundi en séance publique à l'Assemblée nationale, pour que chacune et chacun comprenne, il ne résulte pas d'une initiative parlementaire. Il est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans ce qu'on appelle l'ordre du jour prioritaire réservé au gouvernement. Donc c'est le gouvernement de François Bayrou qui met ce texte à l'ordre du jour du Parlement. Et c'est là, donc, qu'il y a la fameuse motion de rejet inédite, avec un récit des promoteurs de la motion de rejet visant à en faire porter la responsabilité sur les écologistes, c'est-à-dire sur les amendements que nous avons déposés sur le texte. Alors, le texte, à l'issue de son passage en commission, il fait 27 articles. Nous avons déposé 55 amendements par article en moyenne, et donc ça revient à 40 amendements par député écologiste, ce qui n'est pas beaucoup. Pour vous faire des éléments de comparaison, quand le groupe EPR avait fait de l'obstruction, ce qu'on appelle vraiment de l'obstruction parlementaire, à la proposition de loi pour abroger la réforme des retraites, ils étaient environ à 300, plus de 300 amendements par article. Donc quand on dépose 55 amendements par article en moyenne, c'est du combat parlementaire, mais ce n'est pas de l'obstruction. Ils avaient prévu, et dans le récit, il y a aussi cette idée qu'on avait prévu une semaine de débat avec autant d'amendements. Il n'est pas vrai qu'on pouvait en une semaine examiner le texte. Alors d'abord, ils n'avaient pas du tout prévu une semaine de débat. Ils avaient prévu deux soirs et une journée. Donc c'est pas ce qui s'appelle une semaine. Et par ailleurs, on est en droit de considérer, compte tenu de la portée et de la gravité de ce qui est dans cette loi, qu'il doit y avoir un débat parlementaire digne de ce nom qui ne peut pas être expéditif. Et donc on voit pas pourquoi telle ou telle loi, on accepterait, on trouverait ça normal de prendre le temps du débat, qu'il y ait 15 jours de discussion dessus, mais que par contre, cette loi-là, il faudrait l'approuver telle qu'elle est séance tenante, sans avoir de capacité à l'amender. L'adoption de la motion de rejet, vous avez dû entendre le ministre bis ou le ministre principal de l'agriculture, monsieur Rousseau, le président de la FNSEA, dès le matin à la radio dire il faut qu'il y ait la motion de rejet. Donc tout ça intervient dans un contexte dans lequel il y a par ailleurs des attaques sur les permanences parlementaires d'un certain nombre de députés, où les députés de la minorité relative, je ne sais pas comment dire ça, mais les députés par exemple du MoDem ou de EPR qui n'ont pas voté pour le retour des néonicotinoïdes subissent un certain nombre d'éléments de tentatives de pression pour les faire changer de vote. Et malgré ça, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, voulant éviter à l'institution Assemblée nationale d'abandonner sa souveraineté au profit du Sénat, parce que ça revient à ça, ce qui s'est passé, tente, durant le week-end et lundi dans la conférence des présidents, de trouver un chemin pour qu'il y ait un retrait de la motion de rejet, quitte à ce que nous retirions un certain nombre d'amendements pour pouvoir avoir un débat qui tienne dans un délai raisonnable. Et donc nous, les écologistes, nous avons dit d'accord. Nous avons dit que nous étions d'accord pour passer au temps à ce qu'on appelle le temps programmé, parce que nous voulions à tout prix ce débat et parce que nous savions que les divisions que nous percevions dans le camp qui soutient le gouvernement pouvait éventuellement nous permettre de gagner le vote sur les néonicotinoïdes. Pas sur tout le texte, mais au moins sur cette question de santé publique et sur l'ANSES. Et en fait, la présidente de l'Assemblée nationale, il lui est arrivé certainement un petit peu la même chose. Vous vous souvenez de la dissolution ? Vous vous souvenez que la présidente de l'Assemblée nationale, elle était opposée la dissolution, ben là, il s'est passé un peu la même chose, c'est-à-dire que dans la conférence des présidents, les groupes de M. Attal, de M. Wauquiez et du Rassemblement national n'étaient pas prêts à retirer la motion de rejet. Et donc, en réalité, il n'y avait rien à discuter. Tout était déjà, si je puis dire, décidé et tout était déjà en réalité annoncé par le président de la FNSEA à la radio le matin. Et je suis trop longue, donc j'en viens à la conclusion. Donc voilà ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et c'est inédit. Quelle histoire ça raconte tout ça? Ça raconte d'abord l'histoire de ce que j'ai appelé le trumpisme à la française, c'est-à-dire qu'il est plus sournois. Il est, de prime abord, il se présente comme moins brutal. À ce stade, il est surtout beaucoup moins puissant. Mais on a, au travers de cette loi, l'arrivée sur le fond d'un réel obscurantisme dans le rapport à la science et dans le rapport aux données scientifiques, qui renvoie directement à ce qui se passe à l'échelle mondiale. Pourquoi ce texte, il est aussi important pour eux? Parce que la France est le premier pays au monde à avoir interdit les néonicotinoïdes. Et en fait, la philosophie, faire plier la France, c'est une manière de faire plier l'Europe dans le contexte actuel sur cette question fondamentale du modèle agricole et des pesticides. Et en fait, toute la philosophie de la loi Duplomb, c'est une philosophie d'alignement du modèle agricole français sur les standards, ben justement, de ceux qu'on veut pas, du Mercosur, c'est-à-dire les grands élevages industriels, allons-y à gogo les produits chimiques, la ressource en eau, ben, il y a qu'à faire comme en Espagne, du stockage partout, et puis après, on versera des larmes de crocodile sur les sécheresses qui sont vécues par les agricultrices et les agriculteurs ou sur les inondations. Donc, c'est vraiment ça. La logique de ce texte. C'est pourquoi nous devons considérer que c'est une bataille particulièrement emblématique pour nous. Et c'est là-dessus que peut-être je voudrais finir à ce stade. Il y a quelque chose de qu'il faut bien comprendre dans ce qui se passe avec l'offensive obscurantiste d'inspiration trumpiste, c'est que sa technique, alors je sais très mal le dire en anglais, mais c'est « flood the zone », c'est « inonder la zone ». La technique de Trump et de tous ceux qui font comme lui, c'est de bombarder de choses plus choquantes les unes que les autres. Donc, par exemple, là, je suis en train de vous parler de la loi Duplomb. En séance, tout à l'heure, ils ont voulu supprimer le zéro artificialisation net. Là, ils sont en train de discuter, vous savez, des ZFE, même si c'est un dispositif sur lequel il y a peut-être des choses à dire. La semaine prochaine, lundi prochain, ils mettent à l'ordre du jour une loi visant à défaire la décision de justice qui avait suspendu les travaux de la 69, mais qui viennent d'être réautorisés par la même justice aujourd'hui, donc une loi qui porte atteinte à la séparation des pouvoirs dans notre pays. Et en fait, vous voyez bien la logique, c'est qu'en fait, il y en a tellement que nous, on ne sait plus où donner de la tête, et on est à la fois dans un état de sidération face à la brutalité, la violence de ce qu'on a en face de nous, et en même temps, on est dans un état de dispersion. Parce que si on veut courir après toutes les balles et après toutes les batailles, on se disperse et on n'arrive à gagner aucun combat. Et nous, l'analyse que nous faisons à Génération Écologie, c'est qu'il faut concentrer l'attention, la pression, la mobilisation sur la question des néonicotinoïdes dans la loi Duplomb. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet sur lequel nous sommes majoritaires dans la société. 83% des Français sont opposés aux néonicotinoïdes. Les gens en France, ils ont les problèmes de santé publique sur le cancer. Ils ont les problèmes de santé publique sur l'eau potable. Tout le monde voit bien ce qui est en train de se passer en termes d'impact sur la santé humaine des produits chimiques. Et c'est pour cette raison que nous pensons que la bonne stratégie pour éviter cet effet de sidération et cet effet de dispersion qui nous rend en quelque sorte impuissants, c'est de construire un rapport de force et d'accumuler des forces sur des batailles extrêmement claires, extrêmement lisibles et extrêmement populaires, parce que c'est ce qui peut nous permettre de, si ce n'est mettre un coup d'arrêt à cette offensive, au moins construire un rapport de force qui est déterminant pour la suite, parce que si face à des régressions de cette ampleur, on ne réagit pas et qu'on reste dans une espèce d'état de sidération et de léthargie, malheureusement, ça veut dire que ce type de texte n'est que la bande-annonce de ce qui viendra plus tard.